Nathalie et Alain Antonielli sont deux photographes professionnels monégasques. Ils viennent de mettre le cap sur la Mongolie et la Sibérie. Au total, un périple maritime et terrestre de plus de 18 000 km. Nous les avons retrouvés du côté de Rome pour faire le point dans une première étape.
Nous sommes à quelque chose comme 640 km de Monaco. On a passé la ville de Civitavecchia, qui est le port de Rome, où nous sommes restés bloqués pendant quelque chose comme une semaine. C'était la plus longue période depuis notre départ, parce que bien sûr, notre itinérance est liée à la météo. On ne peut pas s'aventurer en mer par toutes les conditions.
C'est la pluie qui vous arrête ou c'est le vent ?
C'est le vent qui nous arrête, la pluie ne nous gêne pas. Et après, bien sûr, il y a la houle, parce que la houle en mer, c'est pas dérangeant. Mais lorsqu'elle rencontre la côte, et surtout le rivage italien est peu pentu, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender, c'est-à-dire savoir à l'avance où se poser. Donc pour l'instant, nous sommes sur une petite plage, en attendant de reprendre la mer, peut-être en début d'après-midi.
Et quand vous prenez la mer, vous naviguez sur quelle forme d'embarcation ?
Nous avons deux kayaks de mer, c'est des véritables kayaks de mer, c'est des modèles anglais. Les Anglais sont des grands spécialistes, ils ont l'habitude de naviguer par mer blanche, mer formée. C'est les mêmes kayaks que nous avons utilisés au Groenland, savoir que ce n'est pas notre première expérience. Et ces kayaks peuvent transporter 60, à l'heure actuelle nous avons 60 kg de matériel dans chaque kayak, donc ça fait plus de 100 kg de matériel que l'on transporte avec nous. Et c'est des kayaks qui font 5,35 m de long par 56 de large, et dans lequel on est à même de passer plusieurs heures et d'affronter pas mal de situations en fonction aussi de nos compétences. Ça c'est aussi très important, c'est de savoir quelles sont nos limites.
C'est dur physiquement ?
C'est dur physiquement dans la mesure où ils sont très lourds. Si le plan d'eau n'est pas cassé, ça va. Une fois que le bateau est lancé, on maintient son rythme. Par contre, dès qu'on a des vagues, dès qu'on a un plan d'eau qui est chahuté, à chaque fois, il faut le relancer. Et on tire une grande partie du poids avec nos épaules et ça finit par être pesant. Ce n'est pas gênant sur des vents calmes ou arrière. Par contre, ça le devient sur des vents de face où le bateau est, je veux dire, pas systématiquement arrêté, mais est bien ralenti. Et là, physiquement, après plusieurs heures, parce qu'on arrive à faire des 7 heures de navigation dans la journée, 7 à 8 heures, là, ça devient éprouvant.
Alors, Alain, racontez-moi, vous êtes parti avec Nathalie en kayak pour la Mongolie. Il y a une chose que je ne comprends pas bien, vous y allez comment ?
Déjà, on part dans la direction de la Mongolie, c'est-à-dire qu'on part vers l'est. Ça fait longtemps que l'on souhaite se rendre en Mongolie, c'est un petit peu les origines du Groenland. D'ailleurs, nos amis groenlandais nous ont dit, tiens, vous allez voir nos ancêtres. Donc, on voulait absolument nous y rendre et essayer d'y passer la plus longue période possible. Donc on a au départ pensé y aller par nos propres moyens, avec notre voiture qui en plus était équipée et qui pouvait le faire. Mais quelque part, ça ne nous ressemble plus de voyager trop vite. On va dire que la lenteur a ses avantages. Ce qu'il a fallu calculer, ça a été les saisons. Nous sommes plus des adeptes du froid que du chaud, et traverser la Turquie, l'Iran pendant les fortes chaleurs, ça nous est impossible. Donc le timing, c'était de traverser ces pays-là pour la Turquie au début de l'hiver et pour l'Iran à la fin et au printemps. Donc on s'est aperçu que le fait de partir en kayak était tout à fait envisageable. Nous avons des partenaires, et entre autres un partenaire qui assume le transport depuis l'expérience groenlandaise et qui va se charger de récupérer le matériel lorsqu'on arrive à Athènes, et en même temps de nous apporter notre matériel d'hiver, c'est-à-dire les vélos et l'équipement froid, parce qu'on s'attend à rouler, puisque après le kayak ça sera en vélo et en vélo couché, et là on s'attend à rouler sous la neige et par des températures nocturnes pouvant descendre jusqu'à moins 20 degrés.
Et le matériel, alors dans une petite remorque derrière, comment est-ce que vous fonctionnez là ?
Non, après avoir bien réfléchi, des vélos équipés et pouvant porter des sacoches sont bien plus pratiques que le fait de tirer une remorque. Donc là, c'est simplement 4 grosses sacoches par vélo qui nous permettent de transporter tout notre matériel, et on en a peut-être un peu trop. Il faudra encore essayer d'alléger, mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de matériel photo, vidéo et toutes les connectiques et l'informatique qui représentent un certain poids.
L'objectif, donc, c'est d'atteindre la Mongolie, mais dans quel but ?
Dans le but d'avoir des histoires. Nous sommes d'abord photographes, depuis le Groenland, on va dire réalisateurs, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous passionne. Le but, c'est de ramener des images, des histoires à raconter, mais surtout des histoires vraies. Il faut savoir qu'on dit aujourd'hui, tout ce qui se fait, malheureusement, c'est arrangé. On a un budget, on part 3 semaines avec une équipe, on revient, il nous faut des images et on se débrouille à avoir ces images, quitte à faire rejouer les scènes, à faire habiller les locaux. Nous, ce que l'on a filmé, entre autres avec l'âme de la banquise, ça a été de l'instantané, ça n'a pas été rejoué. Donc on dégaine notre caméra comme on sort un appareil photo. Nous sommes des adeptes des immersions longues. L'idée, c'est d'aller montrer le vécu de certaines personnes. Bien sûr qu'on a tout vu, mais on ne l'a peut-être pas vu au travers d'un quotidien et d'une authenticité. Nous sommes en quête d'authenticité.
Là, vous êtes sur la mer aujourd'hui. Est-ce que vous notez vraiment une présence importante des plastiques en mer ?
On le note depuis plusieurs années. En fin de compte, un plastique ne nous choque pas. Je peux vous en montrer un. On a une bouteille par terre. On va dire que dans un environnement urbain, bon, un plastique, on va dire, ça fait partie du quotidien. Ce qui est choquant, c'est qu'il n'y a aucune plage. On navigue depuis pas mal d'années, on va dire plus d'une vingtaine. Et on n'a jamais vu aucune plage où nous nous sommes posés, où l'on ne retrouve pas des matières plastiques, des déchets de toutes sortes. Alors, les grands sont imposants, mais là où on ne voit rien, si on gratte un petit peu, on a du plastique gros comme la moitié d'un ongle ou même encore plus petit qui s'est fondu dans l'environnement. Nous avons rencontré ici une tortue, c'était juste à la sortie de la Ligure, une tortue morte, on la voit sur le site. Voilà, point d'interrogation, étouffée par les plastiques qu'elles confondent avec les méduses. Donc les plastiques, oui, effectivement.
Il y a un message écologique aussi, vous souhaitez sensibiliser contre le réchauffement climatique ?
Il y a un message, déjà on fait ça pour nous, premièrement, hein, celui qui dit qu'il fait, en tout cas on ne fait pas les choses pour les autres, mais si on peut faire passer des messages, c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui de vivre vite engendre des tas de nuisances, on consomme du carburant, ça coûte cher, la lenteur a des tas d'avantages, outre au travers du fait de voyager avec des véhicules sans moteur, c'est surtout le fait de dire qu'on peut, quand on a passé un certain stade, le stade alimentaire et qu'on est un petit peu à l'abri, aujourd'hui nos sociétés nous poussent à travailler, à consommer toujours plus. Et on aurait peut-être tendance à dire que si on consomme un peu moins, si on se respecte, si on reste attentif aux autres, ben on vit beaucoup mieux. Et c'est peut-être là-dessus qu'est le message écologique. On peut partir plusieurs années, on est super bien accueillis, tout le monde nous parle de danger. Je pense que le danger, il est peut-être plus proche de chez nous, sur des routes surpeuplées, que autour de certaines zones inconnues, qui effectivement, quand l'inconnu est frais, mais voilà. Le message écologique, on le situerait plutôt à ce niveau-là.
Et si vous voulez suivre de plus près le périple de Nathalie et Alain Antonielli, rendez-vous sur leur site the-route.com.